avec l'ancien chef du gouvernement, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Raffarin.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Premier ministre du temps, justement, de la canicule de 2003. Bonsoir, Alain Duhamel.
Bonsoir.
On a un sondage Elabe pour BFM TV que nous avons publié aujourd'hui, justement, sur les enseignements à tirer de cette canicule, ou plutôt la perception qu'en ont les Français, qui doit être en première ligne pour aujourd'hui mieux s'adapter. Et on voit que c'est une responsabilité partagée. Pour les Français, c'est l'État à 34%, les collectivités locales à 29%, et puis la prise en main par les citoyens eux-mêmes à 27%. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Duhamel ?
Écoutez, globalement, ça n'est pas déraisonnable. La seule chose, c'est que je trouve que les entreprises sont placées beaucoup trop bas. Il ne faut pas oublier que c'est dans les entreprises qu'on est au moment où il fait le plus chaud. Et que les Français considèrent que, en ce qui concerne les entreprises, ça vient nettement après les trois autres facteurs. Donc, sur ce dernier point, je ne suis pas d'accord. Pour le reste, évidemment, la question qui se pose à chaque fois, Jean-Pierre Raffarin va sûrement avoir des réponses, c'est la responsabilité de l'État. Les collectivités locales, elles sont au contact de leur population, elles font ce qu'elles peuvent, elles savent ce qu'ils doivent faire dans chaque région, dans chaque département, dans chaque commune. Pour l'État, par principe, c'est plus compliqué. Alors, moi, je le considère, à tort ou à raison, évidemment, l'État fait bien son travail quand on a canicule, orage, incendie, catastrophe naturelle, etc. Je trouve que l'État fait bien son travail en ce qui concerne l'information des citoyens. Je trouve qu'il fait bien son travail en ce qui concerne la mobilisation des moyens. D'ailleurs, les services publics ne sont jamais meilleurs que dans ces cas-là, quand c'est face au drame ou face à une épreuve. En revanche, l'État manque manifestement de moyens d'investissement, donc de prévention. Moi, la question que je me pose, alors ça ne va certainement pas être une idée populaire, hein, mais si on prend vraiment au sérieux le dérèglement climatique, si on se dit vraiment qu'on va passer par des épisodes de plus en plus nombreux, comme ceux qu'on voit en ce moment avec la canicule, mais comme des incendies, comme ceux qu'on avait connus, vous vous rappelez, l'année dernière, qui était quand même à la fois consternant et impressionnant, et puis la fonte des glaciers, etc. Si on prend vraiment ça au sérieux, si on se dit c'est une évolution inéluctable si on ne décide pas des mesures drastiques, moi je trouve que, par exemple, il faudrait réfléchir à se dire la France est un des pays au monde où il y a le plus de week-ends fériés. Et pourquoi est-ce qu'on ne sacrifierait pas les week-ends fériés, 3 jours ?
Carrément.
Mais bien sûr, si on prend ça au sérieux. Donc ça... Si on considère que c'est un phénomène limité, si on considère que c'est un phénomène secondaire, si on considère que c'est réversible, si on n'est pas sûr que ça soit grave, à ce moment-là, continuons comme on fait.
Suppression de 3 jours fériés,
si on pense le contraire, moi je trouve que c'est le genre d'initiative que, en tout cas, auquel on devrait réfléchir.
C'est pour rendre hommage à Jean-Pierre Raffarin qui avait décidé en 2004
de nous faire
travailler pour justement les personnes âgées, adapter les EHPAD, etc.
Mais je n'avais pas oublié.
Alors, justement, vous vous souvenez de cet été 2003 ?
Je m'en souviens, je m'en souviendrai toujours. C'est une période de drame et c'est une période extrêmement difficile. On a été tous pris de court, brutalement en plein été. On s'est aperçu que nous avions des problèmes d'organisation majeurs, mais on s'est aussi aperçu de la solitude des personnes âgées en milieu urbain. On s'est aperçu que des gens passaient le mois d'août tout seuls, quelquefois dans des immeubles vides, et qu'on s'apercevait de leur décès 2 jours, 3 jours après. Donc on a découvert vraiment à la fois un problème économique et social, mais aussi des problèmes sociétaux majeurs d'abandon des personnes âgées pendant l'été. Et donc ça a été très, très douloureux. Je crois qu'on a tiré quand même beaucoup de leçons. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler vraiment de drames très nombreux dans les maisons de retraite. Il y a aujourd'hui une salle réfrigérée dans toutes les maisons de retraite. En 2003, il n'y avait aucune salle réfrigérée. Donc, on a fait des travaux très importants. Les maires, aujourd'hui, appellent au téléphone des gens isolés. Donc, il y a beaucoup de choses.
Plus de prévention.
Mais ce que je vois, ce qu'on a fait sur les personnes âgées, on voit aujourd'hui qu'on ne l'avait pas fait sur les écoles.
Oui.
Donc, on voit qu'il y a encore des choses qui sont à faire. Mais Alain Duhamel a raison.
Vous êtes d'accord avec ces 3 jours fériés supprimés ? 3 jours.
Moi, j'ai fait une journée. Mais une journée, quand même. On a rapporté plus de 40 milliards à la caisse de l'État sur ce sujet.
Il a servi à quoi cet argent ?
Sous le contrôle de la Cour des comptes, pour les personnes âgées, justement.
On est sûr de ça, avec... parce que mais certains on est sûr disent que l'argent est parti.
Non, mais oui, mais ça, tout le monde dit ça tout le temps. Mais là, c'est un contrôle par la Cour des comptes, et c'est Monsieur Seguin qui avait lancé ce contrôle, je vous assure qu'il était très sérieux. Il y avait là un contrôle pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées. Donc, ces personnes-là ont été protégées. Et cette journée de solidarité, ça a quand même été une innovation, parce que c'est ni de l'impôt, ni de la dette. Et donc, dans une situation comme on est aujourd'hui, c'est l'effort des uns et des autres qui peut leur faire. Et c'est pas un impôt, et c'est pas de la dette. Et donc, je crois en effet que nous pouvons envisager d'aller chercher, alors que nos finances publiques sont aujourd'hui très difficiles, d'aller chercher, pas forcément trois, parce que j'ai connu les difficultés. Vous savez, au début...
Là, il est au début. Mais il part à la retraite, donc.
Je pense qu'il, là où Alain Duhamel a raison, c'est que si on veut vraiment s'attaquer au changement climatique, il faut quand même se dire qu'on a quand même beaucoup d'efforts à faire. Et donc, et des efforts de sécurité. Vous voyez les montagnes qui s'effondrent, les routes qui sont coupées quelquefois. Vous voyez un certain nombre de choses. Donc, c'est vrai que dans l'état où on est budgétairement, si on veut lutter contre le changement, il faudra faire des efforts financiers considérables.
Par curiosité, Alain, les trois jours fériés, vous choisissez lesquels?
Oh, je ne choisis pas trois jours particuliers.
Ah, mais c'est ça la difficulté.
Alors, on peut dire, je serais tenté de dire la Toussaint parce que c'est le moment où il fait le plus mauvais parmi, mais en même temps les gens à la Toussaint.
Une journée, ça peut être 2,5 milliards.
Oui. Mais il faut plus. Enfin, moi, ce qui me frappe quand même, c'est la disproportion entre la gravité évidente, parce que là, c'est une question de bon sens. Mmh. On assiste tous à la même chose. Mmh. Donc, on peut pas discuter la réalité du dérèglement climatique et le fait qu'il y a encore des responsables politiques importants qui considèrent que on peut, par exemple, annihiler ou revenir sur des mesures qui vont dans le sens de la prévention, c'est-à-dire des mesures écologiques. Et si on prend, alors là, je ne parle pas du tout dans l'abstrait, si on prend ce qui vient de se passer encore ces derniers jours, à propos de plusieurs mesures, qui étaient des mesures justement pour combattre les régressions climatiques qui existent en ce moment et les risques climatiques qui ont voté pour la suppression de mesures qu'on avait prises. Autrement dit, des mesures qu'on avait prises pour combattre les effets des dérèglements climatiques, ils ont voté leur suppression. Mmh. Et ça, je trouve que c'est d'abord de l'irresponsabilité totale, et en plus que c'est de la lâcheté. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas regarder les choses. Ils préfèrent pouvoir dire à leurs électeurs dimanche prochain, vous voyez, moi j'ai empêché qu'on vous enlève telle prime, etc., plutôt que de dire, vous avez des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, vous avez envie que la France ressemble à quoi à ce moment-là?
Tiens, prenons un exemple concret. Puisque les responsables politiques sont face à leurs responsabilités.
Et tout le monde, toute la société.
Alors, oui, justement, la société, les responsables politiques, les responsables politiques. Les
représentants.
Vous avez raison, Monsieur le Premier ministre. Mais le Rassemblement national dit, si nous arrivons au pouvoir, nous lancerons un grand plan climatisation. La France est très en retard dans la climatisation par rapport aux États-Unis, au Japon ou à la Corée, qui sont à 80-90% de.
Et en même temps, il dit qu'il baisse les impôts.
Alors, est-ce que c'est une bonne idée, un grand plan clim
mais,
ou pas?
Non, mais la question, c'est comment on le finance. Les bons plans, les grands plans, on peut lancer tout ce qu'on veut. Et c'est toujours une très bonne idée d'avoir un plan. Aujourd'hui, on n'a plus de plan, pratiquement. Il n'y a plus de data, il n'y a plus dans la politique de moyens et de long terme. On est dans l'immédiat en permanence. Et quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive, disait Edgar Morin. Donc, je crois vraiment qu'il faut donner de la profondeur à l'action politique.
D'ailleurs, donc ça, c'est gadget, alors.
D'ailleurs, je pense, de toute façon, si vous voulez...
Climatiser les hôpitaux, c'est pas gadget.
Non, mais climatiser sans dire comment vous le financez,
oui,
c'est gadget. Hein, franchement, parce qu'on est, capable... Ce qu'il faut dire, c'est comment on finance. Aujourd'hui, il faut couper ici pour se faire, puisqu'on n'a pas de ressources financières. Ou alors on augmente les impôts.
Il faut faire en plus des économies.
Alors, donc, c'est pas possible. Donc, je crois qu'aujourd'hui, là où vous avez raison, c'est que si on veut faire un retour à la cohésion sociale, au vivre ensemble, on fera pas le retour au vivre ensemble sur l'actualité, sur les douleurs immédiates, parce que chacun pense à ses propres intérêts. On fait l'unité sur une stratégie, sur du long terme, sur un horizon, sur un vivre ensemble, sur des objectifs communs. Et donc, un plan, ça sert à ça, avoir des objectifs communs. Et donc ça, je crois qu'il faut avoir un certain nombre d'objectifs communs. Je pense que la France, elle doit aujourd'hui être, par exemple, dans la lutte contre le changement climatique, un modèle. Et donc, il faut dire une priorité. Ça, de mon point de vue, il nous faudrait un plan à 30 ans. Mais ça, on peut pas avoir 40 priorités. Ça veut dire qu'il faut dire aux Français, on prend le changement climatique, par exemple, et par exemple, on prend le ferroviaire, qui est à la fois un instrument de mobilité, qui est compatible avec le changement climatique, mais on va pas avoir, avec nos moyens financiers, 40 exemples. Donc la stratégie, le plan, le moyen terme, c'est très important. Après, on traite les problèmes d'actualité. Mais c'est la même chose sur le plan international. En s'occupant que des problèmes aujourd'hui, ouais, on crée que des tensions. Mais et c'est l'escalade des tensions qui nous guette.
Mais moi, je voudrais revenir sur le même sujet, évidemment. Je voudrais revenir à la situation de responsabilité, en l'occurrence, d'un certain nombre d'élus, quand même, au niveau national. Ouais. Je parle beaucoup moins des élus locaux, parce qu'eux, ils parlent à leurs concitoyens en permanence. Mais au plan national, il faut quand même se rendre compte qu'il y a 20 ans, la France était en tête de ceux qui combattaient pour justement lutter contre les dérèglements climatiques. Que l'accord de Paris, c'est pas un hasard, c'est à Paris qu'il a eu lieu. Et que la France était très nettement celle qui lançait les choses. Et ça a été vrai avec des gouvernements différents. Ça a été vrai au début avec Nicolas Sarkozy. Ça a été vrai avec François Hollande et l'accord de Paris. Et au début d'Emmanuel Macron, c'était encore vrai. On était en flèche, on était dans les bons élèves.
Bah, la France, c'est l'un des pays les plus décarbonés au monde.
Hein. Bah, on était dans les bons
élèves. Notamment nucléaire.
Mais on était dans les bons élèves. Et d'ailleurs, il y a des résultats qui ont été obtenus, qui ne sont pas des résultats ridicules. Mais là, au moment où on a devant nous des exemples spectaculaires, dangereux et exténuants de dérèglement, c'est le moment où on détricote à certain nombre de choses.
Oui, mais parce qu'on prend des mesures assez punitives, pardon Alain, on interdit, puis après on réfléchit pour savoir si l'interdiction était justifiée. Les ZFE, il y a eu plusieurs, même l'interdiction de pesticides, quand on est seul à prendre cette mesure, ça pénalise nos agriculteurs par rapport à la concurrence. Il y a quand même des raisons à ça, c'est pas
simplement... Vous avez tout à fait raison, c'est une question de hiérarchie des inconvénients. Est-ce qu'on croit que les dérèglements climatiques,
c'est la grande question.
Peut-être aussi faire des études d'impact avant de prendre des mesures.
Oui, on peut attendre et puis on peut continuer, à détricoter ce qu'on avait fait.
Mais est-ce qu'on peut associer les Français, c'est-à-dire
à régresser dans la lutte contre les dérèglements.
Il faut aussi que les Français soient... Vous dites vous-même qu'il y a une cohésion, il faut que les Français comprennent pourquoi on prend ces mesures. Et souvent, les Français, ça les braque quand on interdit d'entrer dans un centre-ville avec tel ou tel véhicule.
Mais parce qu'on n'organise pas aujourd'hui le débat en France... pour savoir si le changement climatique est une priorité ou pas.
C'est ça,
avoir une stratégie.
Un référendum pour ou contre les dérèglements climatiques.
Le
nucléaire,
sur l'éolien. De priorité, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital est prioritaire, la justice est prioritaire, la sécurité est prioritaire, l'alimentation est prioritaire. Donc, à force d'avoir toutes les priorités, on n'a plus de stratégie. Et donc, quand vous avez des mesures, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de balise.
On a un haut commissariat au plan.
Oui,
il me semble qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait François Bayrou, qui est Clément Beaune. C'est Clément Beaune.
Et il y a combien de collaborateurs au commissariat au plan?
Vous voulez qu'on embauche des fonctionnaires?
Bon, et combien? Non, mais je poursuis mon raisonnement. Bon, moi, j'ai connu le moment où le Haut Commissariat au Plan, c'était une institution essentielle.
Avec une vision.
Et où il produisait.
Jamais on raté une réunion. Président de région, j'ai jamais raté une réunion, ni de la DATAR, ni du Commissariat au Plan. Parce que là, on parlait d'avenir. On aidait les élus à être plus intelligents, on donnait des informations.
Et il y avait du monde pour travailler. Moi, je me rappelle que le premier qui m'en est parlé, c'était Jacques Delors, qui, à l'époque, avant d'être ce qu'il est devenu, était au commissariat au plan, était chargé des questions sociales.
Il y a même eu des ministres du plan. Michel Rocard était ministre du plan.
Bien sûr, mais ça...
Il a inventé les contrats de plan après, pour le décliner sans divorcer.
Au commissariat au plan, c'était avant. Et à ce moment-là, justement, ils se rendaient compte qu'il y avait un certain nombre de choses, ils innovaient, ils avaient du monde, ils avaient des experts, etc. Là, on l'a déshabillé, le commissariat au plan.
Au dernier haut commissaire au plan est devenu Premier ministre. Il s'appelle François Bayrou. François Bayrou qui, aujourd'hui, a 80% d'impopularité. Alors, est-ce que c'est injuste?
Ah, alors ça, c'est une autre question.
C'est pour avancer.
Oui, j'ai bien compris. Est-ce que c'est injuste? On est dans une situation politique qui, au moment où on parle, est à peu près inextricable. On a un gouvernement dont on sait très bien que tant qu'il n'aura pas son prochain budget, a les mains quasiment liées. D'ailleurs, si on est honnête, si on regarde la réalité des choses, on vote des lois Mais ces lois, ce sont des projets ou des propositions qui datent d'autres gouvernements, de gouvernements antérieurs. Autrement dit, on vote ce qui a été préparé avant, mais on n'innove pas ou on en innove moins. Bon, pourquoi ? Ben c'est parce qu'il n'y a pas de majorité au Parlement. Et pourquoi aussi ? Et j'allais dire pourquoi d'abord, parce que c'est plus important que l'absence de majorité, c'est parce qu'on sait très bien que cette fois-ci, il n'est pas question de présenter un budget d'accommodement. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'un budget de crise. C'est tout à fait autre chose. C'est un budget qui ne soit pas un ensevelissement, mais qui soit un choc, qui soit une rupture. Donc, un budget désagréable. Mmh. Bon, et ça, c'est un vrai rendez-vous politique qui est pour dès septembre. Et ce rendez-vous politique-là, il est extrêmement grave. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir qui ose soit s'opposer à des sacrifices, soit militer pour des sacrifices, en sachant bien entendu que ceux qui militeront pour des sacrifices seront les plus impopulaires auprès de la plupart des gens. Mais c'est là où les hommes politiques doivent prendre leurs responsabilités.
La popularité vous pousse à prendre des décisions encore plus impopulaires, Jean-Pierre Raffarin. Vous avez terminé à 74% d'impopularité. On a retrouvé les sondages.
Donc, c'est le sort des premiers ministres ?
Oui, mais bon, la popularité...
En général, ils finissent tous impopulaires.
Quand on est en fonction de ma situation où je travaille avec le président Chirac, on avait perdu le référendum, il est évident qu'on avait une secousse considérable. Mais moi, j'étais dans une situation complètement différente de François Bayrou. J'avais une majorité, j'avais un président, on était dans une politique, c'était difficile, on avait fait un certain nombre de choses. J'avais quand même commencé avec du chômage qui augmentait. J'ai fini avec le chômage qui baissait. C'est la seule période où la dette a baissé. Donc, il y avait quand même des résultats.
Alors, il faudra donner les recettes, voilà, Jean-Pierre.
Mais Thierry Breton, Jean-François Copé, quelques autres peuvent les donner. Mais là, pour savoir si c'est injuste, oui, il y a une certaine forme d'injustice. Notre Ve République, elle est fondée sur un principe, le fait majoritaire. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité chez le Président, il n'y a pas de majorité chez le Premier ministre. Donc, on est dans une situation où le levier d'action n'existe pas. Et donc, on peut difficilement considérer que c'est juste que cette impopularité de Bayrou, parce qu'il n'a pas les moyens de mener quelque chose. Faire un budget aujourd'hui, pour lui, c'est infernal. Il n'y a pas de majorité pour porter une politique. Donc, nous sommes dans une situation un peu de blocage. C'est dommage, le président a des grandes qualités, le premier ministre a des grandes qualités, et c'est aujourd'hui, on ne peut pas naturellement avoir une autre situation que d'attendre quelque chose de leur part. Ils ne peuvent pas attendre. Comment leur dire merci ? Moi, je veux vous dire, je crois que c'est la dernière fois que je parle ici avec Alain Duhamel. Donc, je me suis dit, je vais lui dire merci. Mais quand même, je ne peux pas lui dire merci, parce qu'un homme politique, ça ne remercie jamais un journaliste. Donc, j'ai cherché quelque chose ou quelqu'un qui pouvait dire merci. Alain Duhamel. Et j'ai trouvé. Ah. Et j'ai trouvé et je l'ai apporté. Voilà. Et c'est le drapeau européen. C'est ce grand drapeau européen que je vais lui offrir. Mais comme je sais qu'il se défend aussi partout, tout ça, je veux aussi lui défendre et lui offrir le drapeau français. Parce qu'au fond, si quelqu'un a bien servi la France, c'est Alain Duhamel en participant à tous ces débats, en stimulant les oppositions, les intérêts des uns et
alors
des autres.
Je vais lui donner les deux drapeaux, attendez.
Et donc, je vous laisse transmettre. Je voulais vous dire ça, parce que c'est rare qu'on puisse dire merci, et les drapeaux de l'Europe et de la France disent merci à Alain Duhamel.
Alors, Alain,
et pour une fois, je suis, mais c'est mon âge, un porte-drapeau.
Quel est votre drapeau préféré ?
Mais j'aime
européen ou français ?
La réponse est très simple. J'aime ces deux drapeaux parce que je ne conçois pas le succès d'un des deux drapeaux sans l'autre. La France a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de la France.
Je n'aurais pas fait l'erreur d'en offrir qu'un.
Bien sûr. Et accessoirement, la France a quand même beaucoup fait dans l'Europe et l'Europe a permis à la France de faire beaucoup de choses qu'elle n'aurait jamais pu faire autrement. Donc, ça, c'est pas du tout antagoniste.
Mais pourquoi faut-il encore défendre cette Europe aujourd'hui dont, à laquelle les Français sont en train de tourner le dos, d'ailleurs, en votant Rassemblement National?
Parce que on est en Europe, bon, globalement, les Français ont connu les 30 Glorieuses, pendant lesquelles chaque année, faut quand même avoir des choses comme ça en tête, pendant lesquelles chaque année, le pouvoir d'achat augmentait de 4 ou 5% par an. Et pour les Français, c'était devenu naturel que leur pouvoir d'achat augmente. Ensuite, on a eu une période de dérèglement qui a commencé avec les chocs pétroliers, hein, au début de
73.
Au début jusqu'à 73, 74, puis 78, puis les dérèglements qui ont suivi. Et les Français, au lieu d'avoir une augmentation régulière de pouvoir d'achat, sont passés par des hauts et des bas, et malheureusement par plus de bas que de hauts. Alors tout ne s'est pas passé négativement, bien sûr, mais ça a été une période. Et comme c'est le moment où, contrairement à tout ce qui précédait sous la Ve République, il y a eu des alternances. L'idée s'est incrustée que les alternances s'ajoutant aux désillusions économiques et aux regrets, aux nostalgies sociales, eh ben c'était le système qui était mauvais, que comme c'était le moment où il y avait la construction de l'Europe, finalement c'était l'Europe, la Ve République, etc., qui était responsable. Ben non, c'était des phénomènes mondiaux que les Français ont gérés quelquefois bien, quelquefois moins bien, ça dépendait des gouvernements. Jean-Pierre Raffarin disait que le sien s'était plutôt bien débrouillé, ça n'était pas faux. Il y en a d'autres qui se sont aussi bien débrouillés. Rocard s'était assez bien débrouillé. Et la deuxième partie, alors là, je vais dire quelque chose qui n'aura pas de succès, hein, mais la deuxième partie de Hollande et la première partie de Macron, disons les deux dernières années de Hollande et les deux premières de Macron.
Avec la politique de l'offre.
Il y a eu des progrès réels en termes de croissance, en termes d'emploi, etc. Et puis on est retombé dans des séries de crises qui n'ont pas toujours été très bien gérés, il faut reconnaître, mais et les Français sont retombés dans leur pessimisme. Et c'est pour ça que ils votent comment, quels sont les deux pôles qui se portent bien dans la politique. Eh ben c'est le Rassemblement National d'un côté et c'est Jean-Luc Mélenchon de l'autre.
Jean-Pierre Raffarin.
Moi, je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le Rassemblement National est contre l'Europe. Au fond, le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est des questions liées à la sécurité et aux migrations qu'il porte. Les autres sujets sont plus lointains et de toute façon, on voit bien l'exemple de Meloni, les gens sont persuadés que de toute façon, l'Europe devra continuer. Et Madame Meloni a fait des grands discours anti-européens et une fois qu'elle est au pouvoir, elle prend Monsieur Draghi comme conseiller parce qu'elle sait très bien que nous avons...
Et Marine Le Pen sur l'Europe a changé aussi, a mis de l'eau dans son vin.
Donc,
on verra ça. Ce qui est, je crois, très important aujourd'hui, c'est de se dire qu'en effet, on a des insuffisances de gouvernance européenne. Mais c'est une chose que d'avoir des problèmes de gouvernance européenne, de manque de rapport de force.
Et de réglementation excessive.
Et de réglementation excessive. Et de capacité stratégique sur la défense, par exemple.
Insuffisante.
Aujourd'hui, insuffisante. Donc, il y a des sujets politiques, mais qui sont des sujets normaux. C'est vrai que être à 27, c'est pas facile. Ça prend du temps. Il y a des bavures. C'est difficile, mais
il y a des enquiquineurs, il faut bien le dire aussi.
Bien sûr, mais c'est quand même la seule organisation au monde à mettre 27 démocraties ensemble, et donc c'est quand même quelque chose de très important. Je crois aujourd'hui que dans le monde des empires, si l'Europe devait éclater, on serait sorti de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, de quoi rêve la
Turquie ? On a besoin d'un empire européen.
Mais je pense qu'il nous faut une gouvernance d'autorité en Europe et d'être capable aujourd'hui de construire une politique de défense, de prendre notre liberté vis-à-vis des États-Unis et de construire notre souveraineté européenne.
Revenons quand même à nos affaires franco-françaises. Ce gouvernement Bayrou, il y a une photo qui a été publiée du gouvernement Bayrou avec Emmanuel Macron. C'est la première photo d'ailleurs d'un gouvernement Macron au deuxième quinquennat depuis 2022. Par exemple, Gabriel Attal, je crois qu'il y a eu la photo, mais elle n'a jamais été publiée. Le gouvernement Attal. Donc là, on a le gouvernement Bayrou avec Emmanuel Macron. C'est une photo d'adieu ou c'est une photo d'un gouvernement qui va rester, Alain Duhamel ?
On en revient au même point. On en revient à la question, ça va être le budget. Si c'est un budget de transition, c'est un échec et un enlisement. Si c'est un budget qui est un vrai choc, c'est un pari qui sera accepté ou pas accepté. Et selon qui sera accepté ou pas accepté, le gouvernement dégringolera ou le gouvernement pourra continuer à travailler.
Après, François Bayrou aurait l'intention d'impliquer tout le monde, un peu comme un conclave, c'est-à-dire de demander à tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale de faire des propositions.
Bon, alors ça, c'est très bien d'abord de consulter les groupes parlementaires, je pense qu'on ne le fait pas assez. Et les dialogues entre ceux qui sont au gouvernement
et
les responsables de groupe, les chefs de parti, etc., c'est très bien et on ne le fait pas assez. Donc je suis tout à fait d'accord, ces rencontres-là, ça ne peut être que positif. Mais je répète, on ne peut pas faire un budget de transition. Il faut que ce soit un budget de rupture. Un budget de rupture, c'est un énorme pari. Ça obligera à ce moment-là tous les partis à prendre des positions, soit dire, c'est désagréable, mais effectivement, on ne peut pas faire autrement.
Mais chacun fixe ses lignes rouges, là, en ce moment.
Au contraire. Non, mais si personne ne joue le jeu, le gouvernement saute. Il n'y a aucun problème. Il y a un problème, mais il saute, c'est certain. Mais il vaut mieux sauter, quitte à sauter pour un gouvernement, il vaut mieux sauter en présentant des mesures courageuses que de sauter en présentant quelque chose d'inodore et d'incolore.
D'accord avec ça ?
De toute façon, la rupture, nous allons l'avoir. Soit nous l'avons à un moment par l'action, soit nous risquons de l'avoir par l'inaction. Parce
absolument.
Que l'inaction va conduire forcément à une rupture.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y aura une grève des infirmières, des chauffeurs routiers, une crise qui, à un moment ou à un autre, sera suffisamment forte pour avoir une adhésion assez forte des Français et d'avoir une crise politique assez grave. Je pense que si on n'a pas les moyens d'agir contre un certain nombre de difficultés, or, le manque de majorité fait qu'il n'y a pas de moyens. Et donc, nous sommes en situation où l'inaction, aujourd'hui, est quelque chose d'imposé.
Vous voyez bien que
je pense que quelque chose de très difficile aujourd'hui. Donc je comprends tout à fait le raisonnement d'Alain Duhamel, je comprends tout à fait qu'il faut un budget qui soit un budget courageux, un budget de rupture, mais je ne vois pas aujourd'hui les forces politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Et alors, raison de plus, si on va vers une dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'on sera dans une impasse, je ne vois pas l'Assemblée nationale apporter des réponses à une situation aujourd'hui du pays qui est un besoin de majorité, et c'est pas l'élection législative qui va nous la donner.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'une majorité que ne sortirait pas de façon satisfaisante d'une dissolution. Oui. Et qu'une dissolution ajoutée à une autre dissolution, ça risquerait de nous entrer...
Ajouter du désordre au désordre.
Et pour le coup, non pas simplement dans une crise politique, mais dans une crise de régime. Mais oui. Ce sur quoi je voulais insister, c'est le fait que si on ne fait rien, c'est-à-dire si on propose un budget inodore sans saveur...
C'est ailleurs que sont les problèmes.
Ou si on propose au contraire un budget courageux, mais qui ne trouve...
C'est quoi un budget courageux, Alain ?
Un budget courageux...
Parce que tout le monde n'a pas la même définition.
Un budget courageux, c'est un budget qui propose des mesures à la hauteur des déficits qui existent.
D'accord, mais...
Alors, quelles mesures à chacun de proposer les siennes.
Oui, mais Alain, j'entends ça. À droite, ils disent il faut réduire les dépenses. Et à gauche, ils disent il faut augmenter les recettes.
C'est
quoi le courage ?
Je vous répondrai volontiers, mais j'avais pas terminé mon petit raisonnement, qui était presque à la fin. On présente, par hypothèse, un budget courageux. Il n'a pas de majorité naturelle à l'Assemblée. Mais s'il est repoussé, ce qui malheureusement est le plus probable, s'il est repoussé, qu'est-ce qui se passera ? Ça voudra dire que les marchés financiers verront que pour deux années de suite, ce qui est sans précédent, que deux années de suite, les gouvernements français n'arrivent pas à avoir un budget adapté. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Il y aura une crise financière. Si au même moment, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on aura une crise de régime, parce que si on n'a pas de majorité possible, c'est pas une crise politique, c'est une crise de régime, et on aura simultanément une crise financière venue de l'étranger, d'ailleurs, qui nous tombera dessus et qui ne nous fera pas de cadeau.
D'accord.
Donc, la solution, c'est qu'il faut être courageux.
Oui, mais je ne sais toujours pas ce que c'est un budget courageux. C'est quoi un budget courageux ? Pardon, mais si j'interroge la droite, c'est effectivement réduire dans les dépenses, hein, pas d'impôts surtout supplémentaires. Et quand j'interroge la gauche, c'est de nouvelles recettes, il faut taxer les riches, etc. Donc, tout le monde a des définitions différentes.
Question budgétaire, c'est une erreur d'interroger la gauche. C'est pas leur force.
Ah bon ?
Non, ils sont dépensiers.
Ouais, la gauche, elle a un groupe important à l'Assemblée nationale et elle peut censurer.
Peut censurer, mais ils n'ont jamais montré que par leur politique, que ce soit la retraite à 60 ans, que ce soit la semaine de 35 heures, ces grandes mesures qui ont plombé les finances de la France, on attend des réponses de leur côté. Donc là, je dis, vous m'obligez un peu à être partisan, ce que je n'ai pas été depuis longtemps, mais je suis prêt à y redevenir. Mais en tout cas, il ne faut pas augmenter les impôts, parce que de toute façon, il n'y a pas d'énergie dans ce pays.
Donc pas d'augmentation d'impôts.
Et donc il ne faut pas augmenter les impôts, il faut faire des économies. Et pour ça, il faut choisir des stratégies. Et donc il faut penser à l'avenir, il faut choisir les stratégies et faire des choix. Mendès-France disait, le courage, c'est de faire des choix. Et c'est pas dire que tout est prioritaire. Non, tout ne peut pas être prioritaire. Et donc, qu'est-ce que la santé est prioritaire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait pour nos hôpitaux ? Et qu'est-ce qu'on fait pour notre défense ? On a trois ou quatre grands sujets. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aujourd'hui prendre l'affaire. Avoir un consensus politique sur les trois ou quatre grandes priorités.
Et je vous signale, ça va dans le même sens, mais ça se passe à un autre moment, qu'à la Libération. Général de Gaulle a formé son gouvernement, avec tous les partis, dans un premier temps. Et que c'est Pierre Mendès France, à qui il a confié l'économie. Que la France était dans un état économique évidemment déplorable à la libération, bien sûr, après la guerre, l'occupation, etc. Et Mendès France a proposé ce que je suggère modestement, c'est-à-dire un budget qui soit courageux et qui soit un choc. Et même le général de Gaulle, qui était pourtant pas quelqu'un tellement flexible, et en tout cas pas de démagogue, le général de Gaulle, c'était pas un démagogue, a dit non, ça vraiment, c'est pas possible. Et Mendès a démissionné en disant, si on ne veut pas être courageux, je n'en suis pas. Et je trouve que c'est la bonne méthode. Il faut mieux
François Bayrou va démissionner.
Moi, je pense qu'il vaut mieux démissionner en proposant quelque chose de courageux que de survivre en proposant quelque chose de myope.
Oui, mais si jamais François Bayrou démissionne,
on va tourner vers Macron.
Voilà. Et là, vous parlez de crise de régime. À ce moment-là, on passera à une crise de régime à un cran supplémentaire. C'est-à-dire qu'on aura le responsable de toute la crise qu'on connaît, c'est le président de la République. Et là,
devant. Je répète, si la France, pour la deuxième année de suite, refuse, quand je dis la France, c'est l'Assemblée, refuse un budget courageux, on a une crise financière devant nous qui vient de l'extérieur.
Macron n'est pas forcément le responsable.
Ah bon ?
Eh oui.
La dette ?
Non, mais parce que s'il y a quand même, si l'Assemblée n'est pas capable de faire. Oui, non, mais l'Assemblée.
Enfin, la situation économique du pays, il y en a un peu responsable, quand même.
D'accord. Le président a des responsabilités. Il est, selon De Gaulle, l'homme en charge de l'essentiel.
Quoi qu'il en coûte, c'est lui.
D'accord. Il est l'homme en charge de l'essentiel. Mais il n'empêche que le Parlement a quand même sa responsabilité. Oui. Quand le Parlement n'est pas capable de dégager des stratégies, de construire des unions, et pas capable.
La dissolution, c'est Mme Macron qui l'a décidé.
D'accord, mais les Français, c'est jamais une faute de consulter les Français. Donc le président a consulté les Français. Je suis d'accord que dans l'esprit, si vous m'obligez vraiment à aller jusqu'au bout, faire une dissolution le jour.
Ça n'était pas la meilleure idée du siècle.
Le jour où on avait voté.
Oui, le jour où
les Français s'étaient exprimés déjà.
C'est vrai que la dissolution, ça a été fait les jours de victoire, pas pour les jours de défaite. Mais bon, c'est fait pour que le président se donne une majorité, pas pour le jour où il a été battu. Mais ce qui est quand même aujourd'hui très important, c'est que le Parlement doit se dire aussi qu'il est responsable de la situation. Et le désordre du Parlement, c'est la responsabilité
parlementaire. À chacun d'être responsable.
À chacun d'être responsable.
Mais est-ce qu'on parlait de la démission de François Bayrou, est-ce que dans les scénarios, une démission d'Emmanuel Macron est envisageable, inenvisageable ou pas ?
Ça n'est pas son intention, puisqu'il l'a dit.
Bien sûr.
Il a dit qu'il terminerait son mandat.
On ne connaît pas les événements et l'ampleur des événements.
Parfois, on est obligé de se...
Ça n'est pas forcément la solution, parce que s'il y a une élection présidentielle en plein milieu d'une crise financière grave... c'est quand même assez difficile à gérer, mais on ne peut rien écarter comme hypothèse au stade où on en est. Parce que, et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui est original, et c'est ça qui est grave, on a à la fois une crise budgétaire et financière considérable, et on a une crise politique qui menace de tourner à la crise de régime, et ceci sous l'œil de nos prêteurs internationaux qui nous croient de moins en moins.
Oui. Mais un républicain ne peut pas demander la démission du président de la République. Un républicain doit respecter les institutions.
C'est ce que pourtant a demandé David Lisnard, le maire de Cannes.
Mais je pense que nous devons respecter les mandats.
Peut-être que David Lisnard pense qu'il sera meilleur président.
Oui, et peut-être qu'on va lui admettre que son mandat de Cannes, il va passer à 4 ans au lieu de 6 ans.
Donc, il faut respecter les mandats.
Je pense qu'un républicain respecte les institutions de la République. C'est un principe de base.
Merci Jean-Pierre Raffarin. Donc merci pour les cadeaux pour Alain Duhamel, un drapeau européen, un drapeau français.
Un mot quand même sur ces débats que vous avez menés avec Alain Duhamel toute cette saison.
Je pense que Alain Duhamel a une force de conviction assez forte. Il n'est pas facile d'être en désaccord avec lui parce qu'il est assez déterminé dans ce qu'il dit. Mais je dois dire qu'il a une expérience politique qui fait qu'on peut pas s'aventurer dans des arguments légers parce qu'il trouve très vite la parade en vous citant un exemple. Vous avez vu tout à l'heure le retour de Mendès France à la Libération. Choc, c'était quand même vu. Donc, il y a chez lui cette densité culturelle qui fait que la malice politique trouve sa source au plus profond de notre culture.
Et je dirais que je suis totalement indigne des deux drapeaux qu'on m'a portés, que je les admire tous les deux, mais que je n'en suis en rien le porte-drapeau, même à une échelle microscopique.
Non, mais c'est la gratitude qu'ils vous doivent.
Merci Jean-Pierre Raffarin. Alain Duhamel, rendez-vous demain avec un dernier débat exceptionnel, événement, puisque ce sera François Bayrou, le Premier ministre, avec lequel vous discuterez pendant 45 minutes.